Euradio, l'invité de la rédaction, Juan Barceló Moyano.
Gran Menos Mastrogeni est secrétaire général adjoint pour l'énergie et l'action pour le climat à l'Union pour la Méditerranée. Il se trouve maintenant en Égypte à l'occasion de la COP27, la conférence pour le climat à Sharm el-Sheikh. C'est l'occasion de cette interview. Bonjour.
Bonjour à vous.
Monsieur Mastrogeni, vous allez intervenir dans la programmation du pavillon méditerranéen, un espace dans la COP27, organisé entre d'autres par l'Union pour la Méditerranée. Vous allez y discuter des multiples enjeux environnementaux de la région méditerranéenne. Pourquoi est-ce que l'on met l'accent sur la Méditerranée lors de ces sommets?
C'est une opération absolument essentielle, parce que la Méditerranée est un endroit de fragilité énorme, parce qu'elle est très, très exposée aux impacts des changements climatiques, mais aussi parce qu'elle est très fragile, point de vue possibilité de résister à ces impacts. Néanmoins, la Méditerranée n'existe pas dans les négociations, pour une raison technique toute simple, que dans le système des Nations Unies, la région méditerranéenne est partagée entre trois groupes de négociations différentes. Le résultat, quand même, c'est qu'elle ne fait pas surface dans les négociations. Donc, on doit bien déclarer quelle est la situation. Et je vais vous la décrire très brièvement. C'est la deuxième région qui se réchauffe plus vite au monde. Les eaux de la mer méditerranéenne sont les eaux qui se réchauffent le plus vite au monde. Associé à ces mesures, il y a toute une série d'impacts qui sont très menaçants. Ça me prendrait des jours juste d'en faire la liste. Je me limite à en citer deux. 250 millions de personnes en scarcité d'eau dans quelques années et une montée du niveau de la mer très rapide qui peut saliniser les terres côtières, là où se passe plus que 40% de la production agricole, avec un endroit très exposé et très stratégique, c'est le delta du Nil, qui peut se saliniser très vite, avec la conséquence que la sécurité alimentaire d'un pays de 120 millions d'habitants se trouverait très menacée. En plus, disons, sont tout l'équilibre de la région qui dépend historiquement de notre climat, qui est en train de changer. Alors, si tout ça n'est pas compris par la politique, ça risque de devenir un facteur de compétition et de conflit. Par contre, si nous comprenons qu'il y a aussi des nouvelles raisons de coopération, ça peut se tourner dans un facteur de paix, et non seulement dans une bonne manière de s'occuper des changements climatiques. Je vous fais un autre exemple. Dans les 10 dernières années, il y a eu une augmentation spontanée de la coopération entre le rivage nord et le rivage sud de la Méditerranée dans les domaines forestiers et agricoles. Pourquoi ? Parce que les espèces qui sont vitales et commercialement valables en ce moment au sud sont probablement les espèces qui peuvent sauver les agricultures et les économies de l'Europe du sud, du rivage nord dans quelques États. Il faut maîtriser cette situation à niveau politique, économique, etc., pour éviter que ces poussées nouvelles se transforment en une raison de compétition et même de conflit, de déstabilisation, et en profiter pour créer des nouvelles formes de coopération qui peuvent non seulement nous aider à résoudre la question du climat, mais aussi établir une nouvelle économie de paix dans la région.
Monsieur Mastrogenis, vous avez dit que la Méditerranée n'avait pas trop fait partie des négociations pour le climat jusqu'à maintenant. Est-ce que dans cette COP27 avec le pavillon méditerranéen, ça va rentrer dans le débat?
Alors, ça ne va pas rentrer formellement parce qu'on n'a pas l'idée qu'on puisse rentrer comme groupe de négociation indépendant. Mais nous savons que maintenant, l'attention sur cette région commence à être aiguë et c'est un peu une nouveauté. La Méditerranée n'est pas le seul endroit au monde qui est plus exposé aux impacts des changements climatiques. Mais d'autres communautés ont réussi à faire entendre leur voix. Par exemple, les îles. Elles ont contribué beaucoup à faire avancer les négociations et elles sont dans notre même condition. Les îles n'appartiennent pas toutes au même groupe de négociations. On voudrait faire plus ou moins la même chose. Attirer l'attention sur la fragilité de la Méditerranée qui pourrait être déstabilisée et rappeler à tout le monde que ce n'est pas seulement un enjeu ici chez nous, mais c'est un enjeu global. Parce que en direction de la Méditerranée se concentrent les intérêts de trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alors, si cette mer se déstabilise, ce qui est possible, ce serait un désastre non seulement régional, mais global.
Et donc, entre trois continents, l'Union pour la Méditerranée que vous représentez, une organisation qui rassemble 40 pays d'Europe et du bassin méditerranéen, où est-ce que l'on est à cet instant dans la coopération entre ces pays?
Justement, l'autre message qu'on voulait passer à la COP, ce n'est pas seulement « attention, on est dans une condition de fragilité et c'est un risque pour tout le monde ». Mais on voulait aussi dire « attention, on est en train d'expérimenter une nouvelle méthode, un nouveau paradigme et on a l'impression que ça marche ». Et ce paradigme se résume dans ce petit slogan « tous ensemble, on peut y faire face ». C'est-à-dire que si on commence à reconnaître que les différences ne sont pas une raison pour s'opposer, mais constitue plutôt la richesse d'une diversité qui nous donne toutes les ressources pour faire face à la situation, on commence à avancer. Et ça, c'est la politique, c'est aussi l'économie qui l'a compris. Je vous fais un exemple. L'Europe, en 2050, veut atteindre la neutralité carbonique. Mais en Europe, ils ont bien la conscience que ce n'est tout simplement pas possible si on ne fait pas... si on ne compte pas sur le potentiel solaire du rivage sud. Le potentiel solaire du rivage sud, à son tour, ne peut pas se développer de façon complète s'il se réfère seulement à des marchés locaux, parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de ressources financières. Et comme ça, on est en train de découvrir des complémentarités qui sont de plus en plus articulées, intéressantes, etc. Apparemment, ça marche très bien. On a beaucoup d'attention sur ça, on est en train de franchir les premiers pas, mais l'intérêt est là et les premiers résultats concrets aussi.
Et dans cet agir ensemble entre les rives nord et sud de la Méditerranée, l'un des sujets généraux de la COP 27, l'un des enjeux, c'est les pertes et dommages et les mécanismes de solidarité financière. Est-ce qu'il devrait y avoir, ou est-ce qu'il y en a, dans la Méditerranée, des mécanismes de solidarité?
Alors, sur ça, je voudrais vous dire, on est un peu plus avancé que la moyenne globale, parce qu'on a compris que, plutôt qu'aller penser dans un mécanisme de dédommagement, ce qui est important, c'est de partager, parce que du partage, il y a des avantages pour tout le monde. Je vous fais un exemple. Il y a un chapitre de la négociation qui s'appelle le transfert de la technologie. Parfois, il est un peu tense. Et il est tense parce qu'il est normalement compris comme l'obligation de faire un cadeau de la part des gens qui sont beaux, avancés, riches, à ceux qui ne le sont moins. Mais si nous observons la situation de la Méditerranée, si nous nous demandons, mais c'est quoi la technologie? La technologie, c'est le savoir-faire. Alors, si vous pensez que dans une quinzaine d'années, l'Europe du Sud va avoir un climat qui est tout à fait semblable au climat que l'Afrique du Nord a eu pendant des milliers d'années. Où est-ce que se trouve le savoir-faire pour gérer ce genre de climat? Pas en Europe, c'est plutôt au Sud. Nous, on est parti plutôt sur l'idée que, sans nier l'importance du chapitre « Loss and Damage » qui doit effectivement être géré et bien résolu, mais on s'est dit, en même temps, on peut partir sur une logique de partage paritaire.
Avec ces possibilités et solutions que vous nous soulignez, une toute petite dernière question. Est-ce que l'on est optimiste ou est-ce que l'on est pessimiste par rapport au futur de la Méditerranée?
Alors, ça dépend. Il y a un problème de perception dans le grand public, c'est-à-dire que tout se passe dans la négociation. Mais si on pense bien, qu'est-ce que les Nations Unies ou les organisations comme la mienne peuvent faire? Ils peuvent stimuler des accords, des lois, des choses comme ça, mais ce ne sont que des morceaux de papier. Et ni l'écosystème ni la société réagit à deux morceaux de papier. Ces morceaux de papier deviennent importants quand ils sont l'occasion pour mobiliser les acteurs de la réalité, l'économie, les gens communs, etc. Alors, si d'un côté on assiste à des moments de difficulté dans les négociations, de l'autre côté on assiste à une mobilisation dans la bonne direction de l'économie et du monde réel qui est sans précédent. On commence à comprendre que une transition vers la justice et le respect de l'environnement est non seulement nécessaire, mais ça va nous rendre beaucoup plus riches.
Eh bien, on prendra ce petit grain d'espoir pour le futur. Monsieur Grámenos Mastrogeni, vous êtes secrétaire général adjoint à l'Union pour la Méditerranée et vous dirigez le pavillon méditerranéen à la COP 27. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Je vous remercie.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.